La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Monsieur McSween, on revient sur le vol de données chez Desjardins. On a appris un peu plus de détails hier, notamment que le fraudeur, le principal suspect, parce que rappelons qu'il n'a pas été accusé. Là,
exact.
Une des motivations, c'est la peine, la tristesse entourant une séparation.
Bien, c'est les pressions financières autour de la séparation. Puis, ce matin, je pose la question, en fait, je souligne, pourquoi la séparation peut pousser des gens vers la fraude? C'est assez intense comme affirmation. Je ne veux pas faire un lien direct dans ce cas-ci, mais je veux expliquer un contexte. Oui, bon, il y a évidemment le choc tarifaire de te reloger, de perdre tes économies d'échelle, de te remeubler, de payer les avocats. Tu sais, l'ensemble de la facture normale de se séparer qui fait mal. Mais, pourquoi la fraude? Ben, un, prenons des fraudes plus standards, Paul. Prenons la fraude fiscale. Quand les gens se séparent puis il y a un paiement de pension alimentaire et qu'il y a un écart de revenus entre deux conjoints, la fraude fiscale est souvent une voie d'accès utilisée par des personnes pour augmenter leur capacité de gagner de l'argent sans avoir à payer l'impôt conjugal. Parce que là, on le souligne, l'impôt, c'est une chose, puis plus tu augmentes ton revenu, plus tu paies d'impôts au Québec. Mais c'est la même chose avec les pensions alimentaires. Donc, imagine le cas d'une personne qui se sépare, qui se rachète une maison ou un condo, qui a des enfants, puis que là, il est pris à la gorge avec tous les paiements, et que là, en plus, il dit « je vais améliorer mon sort, je vais avoir une promotion, je vais travailler plus », et là, il y a plus d'impôts, mais ça augmente aussi la pension alimentaire pour enfants qui n'est pas déductible. Donc, c'est de l'argent en dette. Donc, la personne tente d'améliorer son sort et elle voit rien. Elle voit pas de lumière au bout du tunnel. Donc, elle cherche des moyens. Des fois, en construction, on voit des gens faire des travaux la fin de semaine non déclarés. Et la personne ne contrôle pas non plus ce que l'autre personne fait de l'autre bord. C'est-à-dire, si ton ex-conjoint ou conjointe décide de ne pas faire d'efforts pour gagner plus de revenus, puis toi, tu le fais, tu viens créer de l'impôt conjugal. Et donc, ajoute à ça l'école privée des enfants, les broches, les équipements sportifs qui sont payés souvent en fonction des revenus, bien, ça fait en sorte que le payeur, quand il cherche une solution qui est au pied du mur, puis qu'il y a une possibilité de fraude, c'est une situation qui est plus dangereuse. Donc, des fois, on voit ça chez les employeurs. Hein? Un employé de confiance depuis 20 ans, tout d'un coup, vit une situation financière difficile à la maison, commence à fouiller des comptes d'entreprise. Ici, on a un cas d'une personne qui dit « j'avais besoin d'argent ».
Non, on comprend qu'il voulait vendre, puis après ça, il a voulu monnayer son témoignage.
Bon, après ça, t'es mal pris, parce que ça, c'est l'autre affaire.
Ouais.
Une fois que t'as perdu tu risques de perdre ta réputation, c'est super important. C'est tout ce qui te reste. Donc, pourquoi je fais un lien avec la séparation? C'est parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en détresse financière après une séparation, et ici, c'est un cas de fraude, mais ça pourrait être un cas d'incapacité de travailler, un cas de surmenage, un cas de burn-out, t'imites. Donc, tu vois que l'élément perturbateur, ça peut être une simple séparation qui mène une personne à divulguer des informations de vos comptes bancaires ou de vos données personnelles plutôt. Donc, c'est fou à quel point la pression financière à la suite d'une séparation vient changer la façon de réfléchir des gens.
Je te dirais que pour ajouter au cas Desjardins, moi, t'as l'angle des motivations, mm-hmm. si on veut, là, des pressions sur le gars. Mais moi, je suis toujours fasciné par deux choses. Comment il a pu avoir accès à pas loin de 10 millions de comptes de clients.
Oui.
Et, tu comprends? Puis être capable de copier ça sur une clé USB pour mettre ça dans son ordi, un. Puis deux, de voir que Desjardins collabore pas trop, un peu, mais pas beaucoup, avec la police.
Bon, une banque dans notre tête, là, une banque canadienne, hein, c'est un beau gros bloc solide. Hein? C'est comme... Tu te souviens-tu sur la rue Saint-Jacques, les grands buildings?
Oui,
là. Donc, dans notre tête, là, c'est bien solide. Bien. Puis quand tu arrives à l'intérieur du système bancaire, puis là, tous ceux qui travaillent dans le système bancaire, Paul, vont avoir un sourire aux lèvres quand je vais dire ça, tu te rends compte que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une accumulation de systèmes informatiques des années 60, 70, accumulé avec des fichiers Excel, accumulé avec des accès, on crée des logiciels maison, on ajoute des applications. Donc, c'est un ramassis de systèmes informatiques. Et tu fais des analyses de contrôle d'accès de tout ça, Paul. Moi, j'ai fait ça. Là. Je me suis promené département à département. J'ai regardé qui avait accès, comment. Est-ce qu'il y a une séparation de tâches qui fait en sorte qu'une personne pourrait frauder? Donc, ça, là, Paul, c'est investiguer. C'est hyper important. Mais quand tu as l'accumulation de tout ça, puis là, il y a sur 30 000 employés, un employé qui se rend compte que voyons, telle salle, j'ai fait telle affaire, on m'a pas demandé d'accès, plus telle autre affaire. Ah ben, j'ai trouvé une brèche sur des dizaines de milliers de contrôles. Le hasard fait que cette personne-là voit la brèche. Des fois, c'est juste en volant aussi l'accès de quelqu'un d'autre, hein. Si tu voles l'accès de ton collègue de travail plus le tien, tu te dis, je peux aller faire les deux. Ça peut être ça aussi. Et donc, il y a ça. Et retirer une clé USB d'une banque, ce qui est drôle, c'est que dans nos ordinateurs portables de tous les jours, tu peux même pas t'installer une imprimante, hein. T'es comme Michel Charette qui pète sa coche. J'ai pas de contrôle sur mon ordinateur. Mais, dans un entrepôt donné, quelque part, y avait-tu un port ou deux ports ou un accès qui avait, tu sais, y a pas de contrôle à la sortie, t'sais. Ça prend pas grand-chose.
Mais ça demeure une institution. C'est hallucinant de voir que quelqu'un à l'interne ait pu copier autant de données. Il s'est fait pogner, mais il a eu le temps d'en siphonner, pas un peu.
Ah, mais parce que dans le fond, il n'y avait pas de contrôle sur la quantité que tu pourrais tirer d'un coup. Mais il y a ce qu'on appelle des logs, hein. T'as un suivi de qui s'est logué, comment, des affaires comme ça. Et donc, il y a des contrôles détectifs par la suite, mais encore là. Si t'as un contrôle détectif, mais qui n'est pas détecté, parce que tu peux mettre en place un contrôle détectif, mais qu'il y a personne qui s'en occupe, il y a pas de fin. Moi, je peux pas lancer la pierre à quelqu'un, parce que c'est un peu comme dans un immeuble à condo. Tu fais un immeuble de 50 étages, puis là, il y a un plombier quelque part, qui sert pas une bague de tuyaux, OK? Puis là, ça déferle, toi. Puis là, quelqu'un qui dit, je peux pas croire que sur 50 étages, il y a de l'eau qui a passé. Ben, c'est un peu l'équivalent. T'avais 50 étages de contrôle, puis il y avait un fitting qui était mal posé.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée.
C'est 23.